Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire, des mots pour le dire, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, livre paru aux éditions Dervy de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Et voilà, nous sommes repartis pour continuer ensemble un nouvel épisode, une émission coupée en trois temps pour que vous puissiez à la fois faire une pause. C'est comme qu'on attaque un chemin, hein. Il faut toujours savoir pouvoir marcher à pas lents et puis poser ses bagages de temps en temps. Alors, je voudrais démarrer notre émission par cette citation de Roland Barthes qui me semble d'une pertinence aujourd'hui encore très forte. C'est un extrait du discours au Collège de France où il dit « Le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire ». Alors voilà, on vous invite dans une émission où on ne vous empêche de rien dire, au contraire, on vous incite à dire. Par contre, on a obligation de vous faire penser.
Absolument. C'est le totalitarisme que définit Roland Barthes par cela, hein. Obligé à dire, à avoir une pensée de la totalité. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre de mon livre « Une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas » paru chez Dervy. Ce chapitre qui s'intitule « L'image modèle ». Je suis parti du Logion 84 que je lis. Jésus a dit « Les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos modèles, voilà le mot « modèle », qui au commencement étaient en vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, qu'est-ce que vous supporterez ?» Alors c'est assez énigmatique cette parole, mais il faut réfléchir justement à ce qu'est le modèle, l'essence, l'archétype. Nous avons déjà abordé cette question lors de la précédente émission consacrée à la famille. Alors je dirais que pour apprécier les choses, souvent nous les comparons entre elles et nous ne nous demandons pas si dans ces choses-là figure un étalon, un modèle idéal, un regard duquel nous pouvons les juger. Alors vous connaissez, Redouane, que tout le monde connaît, le fameux jeu de la marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, etc. Hein. Alors, on pratique ce jeu, mais si on y réfléchit bien, tout le monde sent bien qu'il n'y a là, au fond, qu'une hésitation, et que ce qui peut être évalué n'a en fait aucune valeur. Aimer bien, par exemple, contribuera à désoler celui ou celle à qui on le dit. Si je dis à quelqu'un « je t'aime bien », on va le... il sera effondré, hein, voilà, c'est alors que lui, il demanderait l'amour tout seul, c'est-à-dire ce qui répond à l'archétype de l'amour, hein, le modèle de l'amour. Aimer bien, c'est le deuil de l'amour véritable qui n'a pas besoin de qualifiant pour s'exprimer. Vous voyez, alors dans ce cas précis, lorsqu'on compare, on se demande à quel point on aime, je dirais que la comparaison... entrant par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Hein. Il faut donc que l'amour, avec une minuscule, soit un amour, soit amour avec une majuscule. Simplement, c'est-à-dire répondre à la définition archétypale que le mot porte en lui-même. Et tout le reste est un moins-être. Alors vous voyez que là, progressivement, nous approchons du Logion de l'Évangile selon Thomas, lorsque vous verrez vos modèles. Nous creusons cette idée de modèle. Alors voyez aussi d'autres expressions comme « un homme est un homme »,« une femme est une femme », etc. Ce ne sont pas des tautologies. La tautologie, c'est le fait de dire la même chose, hein, « vérité de la palisse », dit-on, hein. Mais ce sont des confrontations de plans. On confronte un plan circonstanciel, tel homme ou telle femme que je vois, et un plan essentiel, c'est-à-dire l'archétype ou l'image idéale, le modèle qui me vient à l'esprit lorsque je prononce le nom tout seul, fin recourir au qualifiant qui le dégrade toujours d'une certaine façon et qui font changer de plan par diminution évidente de poids en vertu de ce qu'on pourrait appeler la chute ontologique. Alors, c'est une expression un peu savante, Redouane. Peut-être que nous allons hérisser certains auditeurs qui veulent que l'on s'exprime simplement, hein, ces grands mots, la chute ontologique. C'est-à-dire le passage, si vous voulez, du rang des essences, des archétypes, à celui de l'existence où tout est mêlé, tout est imparfait, et rien ne correspond à ces définitions qui s'attestent quand nous parlons, quand nous prononçons certains mots. Vous voyez, c'est ça, ontologique. Ontologique qui a rapport à l'essence, hein, la chute ontologique. Alors, pour bien comprendre cela, il suffit de considérer l'activité d'écriture. Alors, vous savez que je suis un ancien professeur, un professeur à la retraite, un professeur de lettres, et j'ai étudié beaucoup le style, et dans l'activité d'écriture, on peut voir qu'il y a une, je dirais, une catastrophe de la caractérisation. Ainsi, voici ce que Rimbaud dit dans son poème intitulé « Veiller ». Hein. « C'est le repos éclairé, ni fièvre ni langueur, sur le lit ou sur le pré. » C'est l'ami, ni ardent ni faible, l'ami. C'est l'aimé et eux, hein, ni tourmentante ni tourmenté, l'aimé et eux, hein. L'air et le monde, point cherché, la vie. Était-ce donc ceci, et le rêve fraîchi. Alors vous voyez, lorsque on enlève les caractérisants, hein, ni fièvre ni langueur, ni ardent ni faible, ni tourmentant ni tourmenté, eh bien, ces caractérisants qui sont des adjectifs, des adverbes, et qui sont des tombeaux de l'essentiel, à ce moment-là, on est confronté à l'essentiel, précisément. Et on voit que l'essentiel n'admet que l'absence de caractérisation, ou bien la caractérisation négative, par exemple ni fièvre ni langueur, ou sans, hein, sans ceci, sans cela, hein. Et tout cela est homologue exactement dans le monde spirituel à la théologie négative ou apophatique. Alors là aussi un mot savant, qu'est-ce que ça veut dire apophatique? Apophase, ça veut dire dénégation en grec, hein. La théologie négative consiste à dire, hein, entre guillemets, ce que Dieu n'est pas, hein, ce qui est absurde. C'est-à-dire, on dit Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela, Dieu n'est pas cela. Voilà, hein, voilà, théologie négative. Et d'un certain point de vue, on peut dire, vous voyez, Redouane, radicalement que Dieu n'existe pas. Parce que qu'est-ce que c'est que l'existence? L'existence, c'est un englument dans la contingence. C'est comme une pâte molle, un long chewing-gum dans lequel nous sommes en voie de nous noyer. Alors là, je pense à la nausée de Sartre, hein. Pour Sartre, seuls les mots sont essentiels. Par exemple, j'aime, je hais, etc. Là, les mots ont un poids ontologique essentiel. Mais en réalité, il n'y a que moi qui aime, il n'y a que moi qui hais. Et qu'est-ce que c'est, Verbeil, et qu'est-ce que c'est que ce moi? C'est une pâte molle qui n'est pas à la hauteur, justement, des mots que nous proférons. Hein. Sartre, dans la nausée, a bien défini cela. Alors, vous voyez, Dieu n'existe pas. Vous savez, Redouane, que la maxime musulmane essentielle, c'est Allah Akbar. Et Akbar, c'est pas un caractérisant positif, c'est un comparatif. Dieu est plus grand, hein, plus grand que tout ce qu'on peut en dire. Hein. C'est pas Dieu est grand, hein, parce qu'à ce moment-là, il existerait et on pourrait le définir. Mais non, quoi que l'on dise de Dieu, c'est plus. Il est plus, vous voyez. Ça se dit, il est plus. Hein, voilà. Donc, c'est ça, Akbar. Hein, je connais pas l'arabe, mais c'est un ami arabisant qui me l'a dit. C'est pas du tout l'adjectif positif. C'est un comparatif. Comme en latin, le comparatif existe dans ces cas-là pour signifier l'incommensurabilité de tout ce que l'on peut dire. Dieu est plus grand. Non, ne traduisons pas Dieu est grand. Et alors, quand on veut connaître vraiment par la pensée un moment essentiel que l'on vit, un moment très fort, hein, eh bien à ce moment-là, on détruit ce moment. On peut perdre son bonheur dans la vie quand on veut le connaître. Je pense à l'histoire mythologique de Psyché. Vous avez entendu parler certainement, Redouane, de cette histoire. Psyché est mariée à Cupidon, le dieu de l'amour, mais il y a un contrat, une réserve qui est faite. Jamais Psyché ne peut voir Cupidon. Alors au début, ils sont très heureux ensemble, mais ensuite, une sœur de Psyché lui dit, voyons, si Cupidon t'a mis ce contrat en main, ça veut dire que sûrement il n'est pas beau à voir, hein, donc je te conseille d'aller le voir. Et alors, que se passe-t-il lorsque Cupidon dort la nuit, hein, Psyché prend une bougie et s'approche pour voir Cupidon, hein, et alors elle est tellement excitée par sa curiosité et aussi par la peur que Cupidon soit affreux à voir, que sa main tremble et un peu, alors si j'ai dit une bougie, c'est peut-être une lampe à huile, enfin disons un peu d'huile de la lampe tombe sur la cuisse de Cupidon. Sous l'effet de la douleur, Cupidon se réveille et puis il dit à Psyché, voilà Psyché, tu as vu que j'étais beau, mais maintenant va-t'en, je te répudie, tu n'es plus ma femme. Hein. Donc alors Psyché, la pauvre, la malheureuse, elle a perdu Cupidon, elle va errer dans le monde jusqu'à expier sa faute de curiosité et ensuite le conte raconte que finalement Cupidon lui pardonne. Alors comme Psyché en grec veut dire l'âme, les exégètes chrétiens ont vu une parabole, si vous voulez, de l'âme humaine que pardonnée par Dieu après toutes ses errances. Mais moi je dirais que le sens est très profond, il est impossible de connaître son bonheur, il est seulement possible de le vivre, vous voyez, et vouloir connaître, c'est extrêmement dangereux, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Redouane? C'est humain, mais...
Oui, on n'épargne pas le bonheur.
Oui.
Il se vit.
Voilà.
Et même quand on dit c'est le bonheur de te retrouver à sa bien-aimée, c'est pas ce moment-là, c'est le moment, c'est l'instant.
Voilà.
C'est l'instant où s'épanouit le bonheur.
C'est ça. Alors, donc il faut surtout pas l'analyser. Parce que alors on est dépossédé de la magie initiale de la surprise quand on veut analyser. Alors je dirais qu'en termes heideggériens, hein, je prends le vocabulaire de Heidegger dans l'être et le temps, on va chuter de l'être, hein, qui est l'instant, c'est le modèle instituant, l'archétype définitionnel de la citation, dans l'étang, ce que Heidegger appelle l'étang, qui est mêlé et imparfait. Alors attention, l'étang, c'est le participe du verbe être, c'est pas l'étang dans lequel...
C'est pas pour pêcher.
C'est pas pour pêcher, on va plonger comme la grenouille plonge dans l'étang, voilà. Chute de l'être dans l'étang. C'est exactement la chute ontologique. Donc l'épithète dégrade le nom, hein, et le fait chuter dans l'imparfait de l'existence, parce que dans l'existence, tout est mêlé, tout est impur et tout est voué à l'aléatoire. Et le nom, lui, a une pureté, une rigueur spécifique qui lui donne une sorte de nécessité. Hein. Par exemple, si je dis à quelqu'un « tu n'es pas un homme », eh bien je dis beaucoup plus que « tu es un méchant homme » ou « tu es un vil homme ». Hein. Voyez par exemple le mot de Diogène qui se promenait dans Athènes en plein jour en tenant à la main une lanterne allumée et en disant « je cherche un homme ». Alors faites attention, il ne sait pas que Diogène ait eu des mœurs spéciales, hein, pas du tout. Non, il voulait dire qu'il cherchait simplement quelqu'un qui fût digne à ses yeux de porter le nom d'homme, qui correspondit à la définition qui s'atteste dans l'esprit quand on prononce le nom d'homme, vous voyez. Et comme il n'en voyait pas, il avait toujours sa lanterne allumée, vous voyez. Bon. Donc nous cherchons toujours dans les êtres l'adéquation avec ce que nous voyons et ce que nous avons dans l'esprit quand nous pensons à nous. Et alors c'est la même chose si je dis « ma vie n'est pas une vie ». Hein. Bon, c'est beaucoup plus fort que si je dis « ma vie est misérable, ma vie est sans intérêt », etc. Hein. Et chacun peut en faire l'expérience. Ou encore, si je dis, pour paraphraser tout l'évangile selon Thomas, qui joue sur cette figure de l'antanaclase dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire la répétition d'un mot avec affectation à chaque fois d'un sens différent, si je dis « il faut qu'il y ait une vie avant la mort », alors là, tout le monde va être surpris. Hein. Mais quoi, nous vivons, etc. Non, mais je veux dire dire il faut qu'il y ait une vie, c'est-à-dire pas quelque chose de biologique, ce qui rendrait la formulation absurde, mais cela veut dire quelque chose qui soit digne d'être appelé vie, qui soit une vraie vie, qui soit une vie véritable, et non pas cette pseudo-vie qui fait que les gens sont déjà morts bien avant de mourir. Hein. Ibsen disait « La plupart des gens meurent sans avoir vécu, heureusement qu'ils ne s'en aperçoivent pas », vous voyez, hein. Alors cette formule, elle est assez, surprenante, hein, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont une pseudo-vie. Donc, moi, vous voyez, ça on l'a dit souvent lors de nos conversations, Redouane, on pense souvent dans le christianisme majoritaire qu'il y a une vie après la mort en prenant cette vie au sens, le mot vie, au sens littéral, c'est-à-dire notre cadavre sera réanimé. Eh bien, ma position personnelle, me semble-t-il, c'est pas celle-là, c'est que, bon, nous ne savons rien de ce qu'il en sera après la mort, mais il faut qu'il y ait une vie réelle, véritable, avant la mort. Et donc l'évangile selon Philippe, qui est aussi gnostique, comme dans la même tendance que l'évangile selon Thomas, dit dans son Logion 4, hein, un gentil, c'est-à-dire un non-chrétien, ne meurt pas, car il n'a jamais vécu pour pouvoir mourir. Hein. Celui qui a cru à la vérité, au contraire, a vécu. Et lui, il court le danger de mourir, car il vit. Hein. C'est dans les écrits gnostiques, dans la bibliothèque de la Pléiade, à la page 343. Donc, lorsque l'on n'est pas ouvert à la connaissance, lorsqu'on n'est pas initié, eh bien, on ne peut pas mourir. Mais si on est ouvert à la connaissance, on a une vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, on court toujours le risque de la perdre.